Elle est en place. C'est la poudre.
Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme.
I am a feminist.
Je vous obsède avec une constance.
Je ne me suis pas conduite.
Qui appelle quand même l'admiration.
Je me suis pas conduite d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist.
Donald Trump.
Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque.
Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, des femmes inspirantes, des femmes puissantes. Comment sont-elles devenues femmes? Contre quoi ont-elles résisté? Que crient-elles? Que rêvent-elles? Que lisent-elles? Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Alice Diop.
Ça tient à cette jeune femme comme ça, qui n'est pas très belle, qui n'a pas beaucoup de choses pour elle, si ce n'est son intelligence, et qui est dans la brume comme ça, et cet homme tombe à ses pieds, quoi. Il y a quelque chose du chevalier, finalement, qui tombe, et elle, c'est elle qui l'aide à se relever. C'est une scène primitive féministe, en fait.
This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off, or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs, and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
La première claque que je me sois prise avec le travail d'Alice Diop, c'est avec La Permanence, un long métrage qu'elle a tourné dans le bureau d'une permanence médicale ouverte aux migrants et aux migrantes à l'hôpital de Bobigny. Ce documentaire d'une heure et demie met des visages sur la douleur de l'exil, remet du « je » là où les discours médiatiques ne proposent que du « eux ». Eux, les migrants. Comme s'ils formaient un groupe homogène, comme s'ils n'avaient pas tous une histoire, un vécu, une famille, des douleurs qui leur sont propres. Deuxième claque, Vers la tendresse, un court-métrage sur l'amour, où des hommes parlent de leur rapport aux femmes, à la sexualité et aux sentiments amoureux. Pour ce film, Alice Diop a reçu le César 2017 du meilleur court-métrage. Elle a dédié sa récompense aux victimes de violences policières, comme Théo Louaka et Adama Traoré. Le cinéma d'Alice Diop est esthétiquement sublime. C'est un cinéma plein de poésie et de contemplation. Un cinéma où les silences ont la force de slogan. Le cinéma d'Alice Diop parle aussi beaucoup d'elle-même. C'est pourquoi, vous le verrez dans cette interview, les références à ses documentaires reviennent sans cesse. Ils sont la meilleure façon de la comprendre et de la connaître. J'ai adoré cet entretien avec elle, la limpidité et la nuance de sa pensée, et puis la certitude que le personnel raconte l'universel. C'est exactement la croyance qui est à l'origine de La Poudre. Avec Alice Diop, on a parlé de Charlotte Brontë, du Sénégal et de tendresse. Alice Diop, vous êtes cinéaste, vous réalisez des documentaires. Votre cinéma parle d'une réalité qui est peu représentée, celle des quartiers populaires, celle des ségrégations raciales, spatiales. Votre cinéma est contestataire tout en étant souvent contemplatif. Chez vous, le politique est presque subliminal. La première fois que j'ai entendu parler de votre travail, Alice Diop, c'était dans un festival organisé par le magazine Télérama au Théâtre du Rond-Point. Vous parliez de La Permanence, ce long métrage pour lequel vous avez posé votre caméra dans un recoin de la permanence médicale d'un hôpital de Bobigny, réservé aux migrants et aux migrantes. Ce film, Alice Diop, me semble bien représenter votre travail. Déjà parce que vous avez passé un an, sans caméra, à observer la permanence avant de commencer à filmer. C'est une démarche qui vous raconte bien. Ensuite, parce qu'en deux plans fixes, dans un petit bureau défraîchi et sans un seul commentaire, vous racontez avec une acuité rare les douleurs de l'exil. Vous êtes couverte de prix. La permanence a obtenu le prix du Festival Cinéma du Réel, notamment. Un autre de vos documentaires, La mort de Danton, a obtenu le grand prix du Festival du film d'éducation et une étoile de la SCAM en 2012. Votre plus récent documentaire, Vers la tendresse, un court-métrage sur la masculinité dont nous reparlerons tout à l'heure, a moissonné de nombreuses récompenses, notamment le César du meilleur court-métrage en 2017. Alors, Alice Diop, je m'interroge. J'ai une question peut-être un peu provocante à vous poser. On ne peut pas reprocher à votre cinéma d'être tiède ou édulcoré. Pourtant, il est adoubé par une certaine élite intellectuelle, bourgeoise. Est-ce qu'elle comprend bien la force du message politique que vous portez, à votre avis ?
Alors, je serais incapable de répondre. Parce que, en fait, les films appartiennent à ceux qui les regardent et à ceux qui les éprouvent. Et c'est vrai que... En tout cas, ce que je peux dire de ma place d'auteur, c'est que j'ai pas envie de faire un film comme on ferait des tribunes, en fait. Et j'ai envie de faire des films qui permettent, qui proposent finalement une interrogation et qui proposent un dialogue possible et qui contourne la harangue, qui contourne les discours de slogan, qui contourne en fait les choses. Les choses binaires, enfin, c'est cette question de la dénonciation qui pollue, je trouve, beaucoup, beaucoup l'espace de débat dans notre société aujourd'hui. Et que parler de choses dures, que parler de choses, enfin, de la complexité du réel, mais de travailler cette complexité du réel de manière à ce que les autres puissent la voir et puissent l'interroger, je trouve que c'est. Voilà, c'est vraiment ce que j'ambitionne dans mon cinéma et c'est ce que j'ai compris avec La mort de Danton. Il est très difficile de parler de la question du racisme, il est très difficile de le montrer, il est très difficile de dire cet indicible. Parce que pour moi, le racisme, c'est pas uniquement quelqu'un qui vous dit qu'à soi ça le noir, qu'à soi ça l'arabe. C'est quelque chose de très insidieux, de très impalpable, qui est très 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 difficile à montrer. Et moi, j'ai toujours peur, quand je parle d'expériences que j'ai pu avoir, qu'on me renvoie, et d'ailleurs on me le renvoie très souvent, la suspicion de la paranoïa, ou la suspicion de non mais quand même, moi, j'interpréterai pas comme ça, hein. Alors qu'au fond de nous, on sait à quel point, on sait de quoi il s'agit, on sait de quoi cette expérience-là est faite, en fait. Et donc, La mort de Danton, c'était pour moi trouver une forme, trouver une écriture, trouver par le cinéma un moyen de parler de ces choses indicibles, hein, et que face à ce film, on puisse pas dire, ah non, finalement, c'est de la paranoïa ou quoi. C'est que des gens puissent se rendre compte de cet indicible.
La mort de Danton, peut-être qu'on peut le rappeler, c'est l'histoire d'un jeune comédien qui prend le RER tous les jours.
Tout à fait. En fait, c'est l'histoire d'un jeune comédien qui s'appelle Steve Chenche, qui vit dans la cité où j'ai grandi, c'est-à-dire au 3000 à Aulnay-sous-Bois, et qui, à l'insu de ses copains et de sa famille, et à l'insu du quartier, en fait, a décidé de devenir comédien et a entamé une formation d'acteur au cours Simon pendant 3 ans. Dans une solitude totale, et qu'en fait, durant cette formation-là, à la fois, il a appris son métier de comédien, mais il a été renvoyé systématiquement, enfin, il a été enfermé, on va dire, dans son corps de noir, si je puis dire, et voilà, ça a été tout un apprentissage pour lui de devenir la personne de son choix et de s'affranchir, finalement, de la violence de cette place assignée, y compris dans cet espace théâtral où les rôles qu'on lui donnait à jouer n'étaient que des rôles soit caricaturaux, soit des rôles de noir.
Il y a un extrait incroyable, son prof lui dit « Trouve des rôles de noir, moi j'en trouve pas », comme s'il ne pouvait pas jouer un rôle de Molière ou de Shakespeare.
Notamment Danton, parce que le film s'appelle « La mort de Danton », parce que Steve est venu au théâtre par admiration pour un film de Vajda, le Danton de Vajda interprété par Depardieu. Et donc il était totalement fasciné par ce film et par la prestation de Depardieu, et il voulait interpréter Danton. Et son prof lui a dit « Non, tu ne peux pas jouer Danton, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de noir en France », sans comprendre à quel point ce jeune garçon, ce jeune Français, en fait, d'origine camerounaise, pouvait se sentir beaucoup plus proche de Danton que de la figure d'un militant des droits civiques aux États-Unis, par exemple. Et à travers cette chose-là, à travers cette anecdote-là, j'avais envie de questionner la place du minoritaire dans la société française et plus largement comment il est très difficile de s'affranchir finalement de regards qui vous cloisonnent, en fait, qui vous enferment dans un espace qui vous asphyxie, c'est-à-dire comment la difficulté d'échapper à la place et au rôle où on vous assigne. Et notamment quand vous êtes une femme, quand vous êtes un homme noir, quand vous êtes un musulman, quand vous êtes voilà, quelqu'un qui fait partie d'une minorité. Quoi.
Vous dites souvent que ce film, La mort de Danton, il est assez autobiographique et c'est vrai qu'on comprend peut-être le parallélisme qu'il peut y avoir entre vous, réalisatrice noire, née à Aulnay-sous-Bois, qui se retrouve à l'Assemblée des Césars. Vous parlez de transfuges de classe parfois pour parler de votre positionnement dans ce milieu ?
Oui, même si maintenant c'est quelque chose que j'ai digéré parce que ça fait 15 ans que je fais ce métier, mais c'est vrai qu'il n'est jamais simple de faire sa place dans un endroit où on n'est pas attendu. Et moi, en tout cas, ça a été un parcours qui a été très long, très douloureux, qui a nécessité de bonnes séances psychanalytiques. Mais ça a commencé, je dirais, depuis la fac. En fait, moi, j'ai fait des études à la Sorbonne et je me suis retrouvée très souvent dans cette grande bibliothèque, cette majestueuse bibliothèque de la Sorbonne. J'étais la seule femme noire dans cet endroit de culture comme ça, hyper prestigieuse. Et c'est vrai que je me suis sentie très inconfortable, très intranquille dans ce milieu-là. Et après, c'est vrai que je me suis sentie très souvent isolée et seule dans tous les milieux dans lesquels j'ai essayé de faire ma place, dans le milieu du cinéma également. Mmh. Et ça a été, c'est vrai que c'est pas facile, c'est un parcours de vie. Et du coup, Steve, même si j'ai pas tout à fait le même parcours que lui, parce que voilà, j'ai fait des études, enfin, il y a des choses dans nos trajectoires qui ne sont pas les mêmes, j'ai reconnu la difficulté que c'est que de se sentir légitime, en fait, et de s'affranchir de cette complexe d'illégitimité qui nous poursuit quand on est enfant d'immigrés, aspirant à... Enfin, on est passé de l'autre côté, si je puis dire.
Ouais. Mais en tout cas, vous avez réussi à conquérir cette légitimité, à dépasser ce sentiment-là. Et j'aimerais bien qu'on essaye un peu de retracer votre parcours pour comprendre comment vous avez accompli ça. Donc, vous avez grandi à Aulnay-sous-Bois, dans le quartier de la Rose des Vents, qu'on appelle aussi parfois la Cité des 3000.
Oui, tout à fait.
C'était comment de grandir là-bas ?
Bah moi, j'ai vraiment, c'était un peu le royaume d'enfance, quoi. J'ai des souvenirs très joyeux, très, très beaux, très, très nostalgiques de mon enfance là-bas. La diversité des gens, ce foisonnement, cette liberté qu'on avait. Enfin, il y a quelque chose. L'enfant que j'étais avait. C'était un espèce d'espace clos aussi où il y avait l'ailleurs n'était pas vraiment pensé. Mais non, j'ai vraiment plaisir à me souvenir de nous échapper en roller avec mes copines dans les terrains vagues. Enfin, il y a vraiment. Ça a été assez joyeux,
ouais. Un sentiment de liberté, en fait.
Oui, de liberté, enfin, c'était un espace protégé, c'est-à-dire qu'on ne savait pas encore les difficultés qui allaient nous attendre. On était finalement tous entre nous dans une forme d'homogénéité sociale aussi très grande. Et voilà, garder partout... Enfin, ouais, j'ai vraiment ce sentiment du royaume d'enfance, quoi.
Vos parents étaient des travailleurs immigrés du Sénégal dans les années 60. J'ai lu que vous leur deviez un éveil politique assez précoce. Ils étaient mitterrandiens, je crois.
Enfin, surtout mon père, hein. Vraiment plus mon père que ma mère. Mais c'est vrai que j'ai grandi dans une espèce de culte dévoué à la personne de François Mitterrand. Il y avait sa photo dans le salon. Et je me souviens que le jour où on a obtenu... Enfin, parce que moi, je suis née en France sous le régime du droit du sol. Mais je ne sais plus dans quelles circonstances. Je sais qu'on a obtenu la carte de nationalité. Je devais avoir 7 ou 8 ans. Et je me souviens de mon père nous réunissant dans le salon dans une espèce de cérémonie très solennelle et nous délivrant ce papier hyper symbolique pour lui parce que mon père a été français sur le tard. À la fin de sa vie, il a fait une demande de réintégration, mais pendant des années, il avait juste une carte de séjour. Donc finalement, avoir des enfants français et aller à la préfecture prendre cette carte de nationalité pour ses enfants, j'imagine à quel point ça a dû être quelque chose d'important pour lui. Et donc, il nous a réunis dans le salon en nous donnant notre carte, nous délivrant cette carte-là. Et il nous a dit, vous êtes français, maintenant il faut voter pour François Mitterrand. Et je me souviens vraiment de cette phrase comme une espèce de vous êtes ma voix, en fait. C'est que moi, je ne peux pas le faire, mais vous allez le faire pour moi. Et
parce que vous lui deviez cette nationalité, c'était lui qui avait permis de le rendre possible ? C'était un attachement à la gauche, aux valeurs socialistes ?
Non, je pense que c'était un attachement vraiment aux valeurs socialistes. Je pense que l'image aussi de Mitterrand dans les années 80, c'était vraiment d'être le président de la carte de séjour, ouais. Le président qui était du côté des immigrés, etc. Donc, il y avait vraiment une figure... Aujourd'hui, je pourrais presque... interpréter ça un peu comme du paternalisme aussi. Enfin, l'espèce de... Voilà, de déférence que mon père pouvait avoir pour cette figure comme ça de Mitterrand. Il y avait presque quelque chose voilà, du père qui nous protège, quoi. Quelque chose que je ne partage pas spécialement. Je sais aussi les zones de trouble de François Mitterrand, même si mon cœur reste profondément attaché à gauche. Mais sans doute, voilà, après, hein, une gauche dont je suis orpheline, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a C'était assez marrant, ce... Il est associé à voilà, des souvenirs d'enfance assez magnifiques. Je me souviens que j'ai assisté à un défilé du 14 juillet avec mon père. Moi, j'avais 7 ou 8 ans, pareil, pour aller voir Mitterrand défiler dans sa Jeep. Donc voilà, il est associé comme ça à une espèce d'image paternelle qui me fait très plaisir de me remémorer, en fait. Mmh.
Vous êtes la petite dernière d'une fratrie de 5 enfants.
Oui.
On vous parlait comment quand vous étiez petite? Sur quel ton? Sur quelle mode?
C'est-à-dire,
vous avez reçu une éducation qui avait quelles caractéristiques? Est-ce qu'on vous parlait très ouvertement? Est-ce qu'il y avait plus de secrets? Est-ce que vous étiez la petite dernière, donc plus couvée que les autres?
Oui, moi je pense que j'ai été beaucoup plus couvée que mes frères et sœurs. J'ai sans doute pas eu les mêmes parents, parce que mes parents m'ont eu sur le tard, alors que j'ai une grande différence avec ma sœur aînée, par exemple, on a quasiment 17 ans. Donc je pense que j'ai une enfance très choyée, j'étais une petite fille très gâtée, très protégée. C'est ce qui me... Mais après, dans une famille sénégalaise, avec beaucoup de pudeur, où la manifestation des affects n'était pas... Enfin, quoi que moi, j'ai pas vraiment eu... En tout cas, avec mon père, j'ai pas vraiment eu à souffrir de ça. Mais c'était pas vraiment une famille, on parlait de tout, mais... Moi, j'étais vraiment très, 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 très choyée, très protégée, quoi.
Vous parlez beaucoup de votre père. On a l'impression qu'il a un rôle important dans votre éducation et dans votre travail artistique aussi. Je crois que vous avez découvert, après son décès, qu'il avait lui-même une certaine fibre artistique, un certain regard, qu'il avait développé un talent de photographe un peu secrètement.
Ouais, c'est vrai que je suis attachée à ma mère, mais ma mère est morte quand j'étais très jeune, quand j'avais 17 ans. Et c'est vrai que... Il y a quelque chose avec mon père, où instinctivement, depuis très petite, j'ai eu la conscience qu'il fallait le protéger, en fait. Mais pas forcément le protéger physiquement, mais qu'il fallait protéger, leur image. C'est-à-dire que j'ai une vision d'eux très, à la fois des hommes, enfin, mon père et ma mère, hein, une espèce de sens du courage, Ouais, c'est quand même pas évident de se réinventer comme ça à 3 ans, à 30 ans plutôt, de quitter son pays, de quitter sa langue et de s'inventer dans un pays où on n'a aucun code, repère, enfin, on ne connaît personne. Et il y a quelque chose de leur fragilité, de leur précarité de vie dont j'ai toujours eu conscience, je crois. Très, très tôt, avec mes sœurs et mon frère, on a été la voix de nos parents, on a été leur porte-parole, on a été leurs avocats. Et c'est comme s'il y avait quelque chose de ça qui dans mon cinéma, c'est-à-dire cette nécessité de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, cette nécessité de protéger finalement les plus faibles, les plus démunis, ceux qui n'ont pas accès à la langue, ceux qui n'ont pas accès au pouvoir de la langue. Enfin, il y a quelque chose de ça, en fait. Et mon père, j'ai l'impression qu'il incarne vraiment cette figure-là de l'homme, en fait, qui, dans une situation un peu précaire, qu'il faut protéger de la violence du monde et de l'effet de cette violence-là.
D'ailleurs, c'est lui qui est le héros de votre tout premier documentaire, celui que vous réalisez quand vous sortez en fait de la fac.
Oui, c'est vrai. Mais alors ça, c'était très... Alors moi, j'ai fait des études d'histoire et des études de sociologie, et pendant très longtemps, je voulais faire des études de sciences humaines et de sciences sociales aussi. Et j'avais une espèce de double cursus, et en fait, le cinéma est arrivé assez tard. J'étais en DESS donc aujourd'hui on appellerait ça Master 2, il me semble, d'image et société. C'était en fait un module de sociologie, mais appliqué au documentaire. C'était vraiment des documentaires sociologiques, entre guillemets, en tout cas anthropologiques. J'ai travaillé sur le sujet de mon film de fin d'études était les étrangers immigrés face à l'exil et l'impossibilité du retour. Et j'avais fait toute une enquête sociologique extrêmement détaillée, pointue, où j'avais rencontré pas mal de Chibani dans les foyers Sonacotra. Et tout d'un coup, un jour, je regarde mon père comme ça, assis seul dans son salon, en train de regarder des documentaires sur une Afrique fantasmée, parce que c'était des émissions comme Faut pas rêver, Thalassa, qui sublimait un peu une Afrique qui était un peu irréelle. Enfin, c'était sans doute pas l'Afrique qu'il avait quittée, et c'était sans doute pas l'Afrique dans laquelle il n'arrivait pas à revenir. Et tout d'un coup, cette scène-là, je me suis dit, mais en fait, ton film, il est là. C'est-à-dire que, quelque part, tu vas chercher ailleurs, tu vas chercher dans un discours didactique et sociologique quelque chose que tu as envie d'interroger dans le salon, dans ta propre intimité, en fait. Mmh. Et du coup, c'est peut-être là où j'ai mis comment le cinéma et comment la question de l'intime, peut devenir à la fois universel, mais peut charrier aussi des questions sociologiques et des questions politiques. Je m'en suis vraiment rendu compte là. Et du coup, c'est presque dans une échelle de valeurs comme ça, je me suis centrée sur mon père. Et c'est à travers lui, à travers le sensible de son expérience, à travers ses non-dits aussi, à travers ce qu'il ne pouvait pas dire, à travers voilà, cette manière de filmer la solitude de cet homme enfermé dans son salon à regarder, voilà, contraint à regarder finalement un endroit où il ne peut plus revenir. Je trouvais que c'était la manière la plus juste et la plus sensible d'aborder la possibilité du retour des Chibani, en fait.
On va revenir un tout petit peu en arrière, parce que j'ai lu qu'en quatrième, vous aviez une sorte de déclic pédagogique. On vous met dans une classe qu'on appelle la pédagogie différenciée, je crois, où vous avez d'un seul coup un suivi très, très spécial. Vous êtes 15 élèves dans une petite classe et vous prenez le goût d'apprendre, le goût de lire. Est-ce que vous vous rappelez l'adolescente que vous étiez, les goûts, les lectures que vous aviez à cette époque-là?
Alors oui, enfin moi j'étais une adolescente très très timide, très réservée, très 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 enfermée, contrairement à la petite fille que j'ai été. C'est drôle d'ailleurs. Enfin, je pense que c'est le cas de beaucoup d'adolescents finalement. Très inquiète, très intranquille justement parce que je commençais à peut-être que la réalité du monde commençait à voir le jour et qu'il y avait quelque chose de voilà qui m'inquiétait de savoir ce que je pouvais devenir, ce que j'allais devenir, d'avoir aucun modèle de référence. Aucun modèle vers lequel se projeter, en fait. Donc, je pense que tout ça, ça a été, et d'autres choses, sans doute, a fait de moi une adolescence très, voilà, très enfermée sur elle-même. Et du coup, en fait, donc je sans doute que ça, c'est quelque chose qui a été remarqué par des professeurs bienveillants. Et donc, ils m'ont proposé à mes parents de me mettre dans un programme test qui était, en fait, de mettre un programme qui est très proche de la méthode Freinet, des méthodes Steiner, enfin, des méthodes de pédagogie différenciées à l'intérieur de la ZEP, du collège dans lequel j'étais. Et donc, on a une dizaine d'élèves à avoir bénéficier de cette chose-là. Et c'est vrai que ça a été totalement une expérience décisive dans ma vie, quoi, parce que tout simplement, on a été regardé, je crois, aussi par des profs. On était très peu, très choyés. On avait exactement le même programme qu'une quatrième générale, mais vraiment, ils nous ont permis de développer nos capacités créatives. Et donc ça, ça a été... j'ai appris vraiment... le goût du savoir, enfin, j'ai une espèce de curiosité qui s'est complètement déployée. Et je crois vraiment que cette chose-là a sauvé ma vie. Enfin, en tout cas, ça a été très important. Et effectivement, l'adolescente très réservée, très timide que j'étais, mais vraiment une timidité presque maladive, le monde qui m'effrayait, j'ai réussi à le domestiquer, on va dire, par la découverte de la littérature, qui arrivait à peu près à cette même époque. Et je me souviens d'un livre, vous parliez tout à l'heure des choses qui vous aident à grandir, mais il y a un livre de Charlotte Brontë, je ne sais pas si c'est Charlotte ou Émilie, tout d'un coup j'ai un doute, Jane Eyre.
Jane Eyre, je crois que c'est Charlotte. Émilie, c'est Léo de Hurlevent, qui a été personnellement bouleversée, moi.
Moi aussi, moi, j'étais très bouleversée par Léo de Hurlevent, mais après, plutôt dans la vingtaine. Alors que ouais. Jane Eyre, mais c'est un livre qui m'a vraiment marqué profondément, quoi. Et c'est marrant parce que je l'ai réécouté il y a peu de temps dans une adaptation sur France Culture.
Ah oui.
Et j'ai tout. Et en fait, c'est marrant, c'est un livre que je lis quasiment tous les 10 ans. Et tous les 10 ans, je me rends compte à quel point ce livre m'a sauvé, en fait. Et ça tient, c'est idiot, mais à une image de cette jeune femme comme ça, qui n'est pas très belle, qui est assez disgracieuse, qui est très très loin des héroïnes comme ça, de romans un peu du 19e siècle, enfin de l'époque victorienne comme ça. Qui n'est pas très belle, qui n'a pas beaucoup de choses pour elle, si ce n'est son intelligence, et qui est dans la brume comme ça, et qui voit Rochester arriver avec sur son étalon. Et cet homme tombe à ses pieds, quoi. Il y a quelque chose du chevalier, finalement, qui tombe, et elle, c'est elle qui l'aide à se relever. Et pour moi, c'est une espèce de... C'est une scène primitive féministe, en fait. C'est vraiment la femme qui... C'est pas le chevalier qui arrive avec son destrier pour la sauver. Non, c'est il tombe de cheval et c'est elle qui l'aide à se relever, quoi. Et j'ai compris à quel point ce livre, parce que c'est vraiment pour moi un des grands livres féministes. C'est loin d'être la bluette à l'eau de rose qu'on imagine de la orpheline qui tombe amoureuse du grand Lord Rochester. Enfin, il y a quelque chose justement d'extrêmement féministe dans ce livre que j'avais pas vu, en fait. Mais je me souvenais de cette scène. Et je me souvenais d'avoir été complètement subjuguée par cette scène, parce qu'il y avait quelque chose de... Oui, enfin, moi, j'étais obèse quand j'étais gamine. Enfin, quand j'étais adolescente, j'étais pas du tout... j'étais très disgracieuse, très... tout d'un coup, il y avait comme si c'était la revanche des faibles, quoi, qui pouvait être beaucoup plus puissant que ceux qui sont censés être les puissants. Enfin, c'est vraiment un livre qui m'a nourri, qui m'a construit et que j'ai relu à 20 ans, que j'ai relu là il y a quelques années. Et voilà, je suis très très. Enfin, c'est vraiment une expérience très forte, quoi, pour moi.
C'est marrant parce que quand vous décrivez cette scène, moi, ça me fait penser aussi à ce que vous faites dans votre cinéma. Enfin, on brûle un peu les étapes, mais ça me vient en vous écoutant. Cette femme qui tend la main à un homme pour l'enlever, ça ressemble à ce que vous dites avoir voulu faire pour votre père. Ça ressemble aussi beaucoup à ce que vous faites dans vos films où vous filmez beaucoup les hommes. Votre film, il raconte rarement des histoires de femmes, à part les Sénégalaises et la Sénégalaise dont on va parler tout à l'heure, si vous voulez bien. Mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment mis au service du sauvetage d'une certaine masculinité. Enfin, je sais pas, peut-être que je me...
Non, c'est intéressant. C'est vrai que je l'ai pas pensé comme ça, mais en même temps, je pense qu'il y a... Oui, que les hommes sont très maltraités. Enfin, les hommes en banlieue, ils bénéficient d'une image très stigmatisée, très stigmatisante et très stéréotypée. Ouais. Et c'est pas que j'avais envie de les sauver, parce que je dis pas que... Enfin, en tout cas, pour reprendre l'expérience précise de Vers la tendresse, l'idée n'était pas de nier des expériences de machisme extrêmement violentes. L'idée n'est pas du tout de nier la violence à l'encontre des femmes dans certains endroits, dans certains quartiers. Mais c'est vrai que je trouvais très étonnant qu'on réduise la figure masculine en banlieue à cette seule chose. Quoi. Ouais. Alors que mon expérience, c'est pas du tout celle-ci. Et voilà, j'avais envie de questionner ce fait. Donc c'est pas tellement les sauver, mais c'est en tout cas mettre de la complexité là où on est souvent dans des choses binaires, quoi. Quant à la permanence, c'est vrai que j'ai, enfin, après c'est plus du tout le cas aujourd'hui, parce que aujourd'hui on voit que des familles migrantes qui dorment dans la rue, enfin des gamins, alors que c'est soi-disant c'est interdit de voir un enfant dormir dans la rue, ils sont censés avoir accès au 115, ce qui est plus du tout le cas. C'est vrai qu'à l'époque, il y a quelques années, les femmes étaient beaucoup plus protégées, elles pouvaient plus rentrer dans des structures associatives, militantes, il y avait un parcours qui était plus fléché, qui leur permettait de moins sombrer dans une dérive à la rue. Mais je pense que c'est plus du tout le cas aujourd'hui, mais ça l'a été au moment où, quand je commençais à m'intéresser à la permanence, il y a vraiment 5 ou 6 ans. Et les hommes étaient... Il n'y avait rien pour eux. Enfin, ils étaient beaucoup, beaucoup plus vulnérables, finalement. Et d'ailleurs, voilà, ce lieu-là était fréquenté majoritairement par des femmes.
Par des hommes, excusez-moi. Ouais.
Parce que les femmes, elles avaient accès à des structures d'aide et des structures sociales, des hôtels dont les hommes n'avaient pas accès. Et donc, ce n'est pas tellement que c'était un désir de me pencher sur les hommes, c'était la réalité du lieu. Les hommes étaient beaucoup plus vulnérables, en fait. Mmh. Et donc, plus sujets à être dans cet endroit.
This episode is brought to you by Vuori. Give the active people in your life something they'll truly appreciate. Performance apparel from Vuori. Whether they're into running, surfing, hiking, or even just casual walks around the block, there's something for everyone. And if you're not sure what to gift them, you can't go wrong with something from Vuori's Dream Knit collection. It's the perfect gift and so comfortable. Get 20% off your first purchase today at Vuori, Vuori.com/Spotify.
Alors, il y a quand même donc un de vos films dont je parlais à l'instant qui explore plutôt le féminin, l'intimité féminine. C'est Les Sénégalaises et la Sénégaloise, où vous avez en fait, vous confrontez à des Sénégalaises qui est donc le pays d'origine de vos parents. Oui. Est-ce que ça a été pour vous un moment où vous avez compris votre propre façon d'être femme, ce film-là?
Non seulement ça m'a permis de comprendre ma propre façon d'être femme, mais ça m'a aussi permis de comprendre ma propre façon d'être noire, ma propre façon d'être moi, en fait. Effectivement, moi, comme je le disais tout à l'heure, ma mère est morte j'étais très jeune, j'avais 16 ans et demi, même pas 17 ans. Elle est morte de façon assez fulgurante. Et je crois qu'il y avait chez elle quelque chose d'une mélancolie que je liais vraiment à l'expérience migratoire. Autant les hommes, en fait, ils choisissent de partir, et les femmes, finalement, elles n'ont pas le choix elles ont le choix d'accompagner leur mari dans l'expérience migratoire. Elles suivent. Ouais. Et c'est vrai que dans les sociétés, enfin, au Sénégal, par exemple, là, pour parler plus particulièrement du Sénégal, la féminité, elle est transmise non pas de façon verticale comme ça de la mère à la fille, mais elle est transmise d'une communauté de femmes vers voilà les femmes de la vers les jeunes les filles de la communauté. Donc il y a quelque chose de très collectif. Et je pense, j'ai l'impression, j'ai l'intuition et j'ai le c'est peut-être pas ce que mes sœurs diraient, mais moi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de la féminité de qui ne nous a pas été transmise comme elle aurait pu être, nous être transmise si on était resté au Sénégal. Et donc cette absence, enfin quand j'avais 20-25 ans, je sentais qu'il y avait quelque chose d'un manque en fait, et j'avais envie de devenir mère, et je crois que j'aurais pas pu devenir mère avant de faire ce film, avant de me confronter à avant de renouer les liens d'une transmission rompue. Et du coup, le film, c'était à la fois une manière de rencontrer ma mère, parce que ma mère ne nous avait jamais rien raconté du Sénégal. C'est comme si, en partant, ils avaient mis mes parents un voile. C'était tellement, sans doute tellement douloureux qu'il y a quelque chose, en tout cas, d'une transmission qui n'a pas été faite. Moi, je ne parle pas du tout le Wolof, par exemple, mes sœurs non plus. On ne nous a pas transmis la langue. On nous a transmis une culture, mais qui est très filtrée, finalement, qui se résumait à un plat de tchibboudjine le dimanche. Enfin, il y avait, donc à la fois c'était dans un bain culturel, mais un bain qui était très incomplet. Et donc j'avais besoin de me confronter à cette culture, à ce pays, aussi à la femme que j'aurais été si mes parents n'avaient pas immigré. À cette culpabilité aussi d'être née au Nord et de penser cette place-là. Qu'est-ce que ça veut dire en fait d'avoir eu la chance d'être née là, qui aurait été ma vie si j'étais restée là-bas. Enfin, c'est toutes ces questions qui me traversaient l'esprit, qui me taraudaient. Et donc, voilà, ce film, c'est ça. C'est à la fois une volonté de partir à la recherche de la mer, à la recherche d'une transmission rompue, à la recherche d'un pays. C'est un film que j'ai fait après la mort de mon père, parce que mon père est mort en 2005. Et c'est un film que j'ai tourné, je crois, en 2006 ou 2007. Où moi, la première fois que je suis allée au Sénégal, c'est pour l'enterrer. Donc j'ai découvert ce pays, ma culture, ma famille, de façon extrêmement violente. C'est-à-dire pour retourner enterrer mon père, donc je découvrais son frère, qui nous ressemble comme deux gouttes d'eau, avec qui je ne pouvais même pas communiquer parce qu'on ne parlait pas la même langue. Donc ça a été très, très fort comme expérience. Et du coup, ce film, en fait, c'est une manière de solder tout ça, finalement.
Ouais.
Et du coup, je l'ai soldé en me disant, bah, en fait, moi, j'ai toujours beaucoup de mal avec le fait de rentrer dans des cases, et en même temps j'ai cette incomplétude que j'avais, je le vivais comme quelque chose de négatif, de n'être d'ici, d'être envoyé toujours à alors mais tu es de quelle origine, la première question que souvent les gens vous posent un peu moins maintenant d'ailleurs, mais la première question c'est tu viens d'où, c'est quoi, c'est tu viens de quel pays, bah je suis française, non mais je veux dire comme si c'était toujours, on était souvent renvoyé à un ailleurs qu'on ne connaît pas. Enfin moi, en l'occurrence, j'avais jamais été. Et en même temps, là-bas, c'était très violent parce que on était clairement les blancs, quoi, les Sénégalois. Enfin, c'est-à-dire que le fait de pas pouvoir parler, puis on était vraiment clairement identifiés comme tels, comme étant les Toubabs. Donc voilà, n'être jamais vraiment bien à sa place. Enfin, c'était très inconfortable au départ. Et quand j'ai fait ce film, quand j'ai fini de faire ce film, souvent les films en fait permettent de régler des questions, hein. C'est-à-dire que tout à l'heure on parlait de l'illégitimité, bon je sais pas tout à fait je l'ai réglé, enfin je pense que ça va mieux quand même aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est la mort de Danton qui m'a permis de régler cette question-là de la légitimité de classe, la mort de les Sénégalais et la Sénégaloise m'a permis de me rendre compte de que mon hybridité était une force en fait, et qu'il fallait que je la revendique et pas que j'essaye de faire des choix, ou pas que j'essaye d'essayer de d'être quelqu'un que je suis pas, c'est-à-dire c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à définir mon identité, j'ai l'impression d'être tellement de choses, et ouais. c'est toutes ces choses là qui font la richesse d'un individu en fait. Mmh.
C'est cette notion d'hybridité, c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans la littérature de Leonora Miano, je crois qu'elle est au micro de la poudre, elle a employé ce même mot pour décrire les identités multiples.
Ouais. Je pense que c'est vraiment le contemporain le plus intéressant en fait, c'est des choses on est tous en fait faits de plein de choses, c'est-à-dire que et pour moi définir c'est réduire, je l'ai toujours pensé. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal de rentrer dans des cases. Quand je faisais la sénégaloise et la sénégalaise, j'étais enfermée dans cinéaste africaine. Alors que je fais écouter, je pense que je ne suis pas spécialement légitime pour porter ce flambeau-là. Ensuite, ça a été vers la tendresse, ça a été tout d'un coup la cinéaste de la banlieue. Enfin, il y a toujours, j'ai toujours refusé de rentrer dans ces cases-là qui finalement vous réduisent, alors qu'on est beaucoup, on est tellement plus riche.
Et on a l'impression aussi que votre caméra vous permet aussi de tisser un lien. Il y a des grands silences, enfin, je vous le disais en introduction, dans vos films. La façon dont vous vous effacez est toujours assez troublante parce qu'on vous sent à la fois très présente, puisque c'est votre regard qui est souvent, qui insiste sur des détails, qui s'arrête sur des choses très, très fixes souvent, mais en même temps, votre voix, on ne l'entend pas. Et cette caméra, elle vous permet de tisser un lien avec les femmes de votre famille. Dans le cas de ce film aussi, vous partez à la rencontre en fait, de cousines, de tantes que vous n'aviez pas non plus rencontrées.
C'est vrai que c'était la seule manière pour moi de les rencontrer. C'est tellement violent en fait d'être confronté finalement à ce lien rompu en fait, que je crois que la façon que j'ai trouvée, c'était de prendre une caméra. C'est comme se confronter à la mélancolie de l'exil de mon père. C'est très difficile de. La seule manière de m'y confronter, c'était de mettre une caméra et d'ailleurs de lui permettre de dire des choses qu'il n'aurait sans doute pas dites si je n'avais pas filmé.
Ouais.
Et d'entendre des choses. Donc pour moi, c'est à la fois une protection, c'est à la fois inventer un espace en fait qui n'est propre que qui n'existe que dans le cinéma en fait, que dans ce cadre-là, et de tisser effectivement des relations qui ne seront pas tissées de la même manière avec une caméra que sans. Enfin, c'est très. Je pense que voilà, c'est créer le cadre en fait, le cadre où il y a quelque chose d'une relation qui va être possible.
Elles vous ont appris quoi ces femmes que vous saviez pas?
Bah déjà, elles m'ont appris tout un pan de la vie de ma mère qui m'était totalement inconnue. Elles m'ont appris qu'on ne pouvait pas remonter le fil, en fait, et que ce qui n'avait pas été transmis ne le serait pas, et que finalement, je ne pouvais pas partir à la recherche d'une. Enfin, qu'il fallait que je prenne acte de ce qui n'avait pas été dit, et que j'en fasse quelque chose avec, par ailleurs, ce que j'avais acquéri par moi-même, ou en tout cas de par la migration de mes parents. Enfin, et en même temps, elles m'ont appris une manière d'être femme qui n'est pas forcément celle que je revendiquerais. Enfin, elles m'ont appris aussi à me méfier des stéréotypes et à me méfier aussi des discours féministes trop européocentrés. Parce que finalement, au Sénégal, ce qui est très drôle, c'est que moi, j'avais beaucoup d'a priori aussi sur la question de la polygamie, la question de la domination masculine qui s'exerce sur les femmes là-bas. Et en fait, j'ai appris là-bas, dans l'intimité de la cour de ma famille, toutes les stratégies finalement de contournement de cette domination, et à quel point finalement les femmes, enfin, tout ce jeu en fait d'ambiguïté entre ce qu'on montre de soi et ce qui se passe réellement. C'est-à-dire que les femmes vont parfois jusqu'à valider un discours de domination, enfin, arguant la domination masculine, alors que dans la réalité des faits, elles vont avoir des stratégies extrêmement puissantes qui montrent à quel point elles ont, elles, le pouvoir. Et ça, je l'ai vraiment vu avec mes cousines. Elles ont le pouvoir économique, elles ont le pouvoir c'est elles qui ont l'argent parce qu'elles ont investi. Enfin, dans des sociétés comme ça en sous-développement, elles investissent comme le commerce informel. Et du coup, c'est elles qui tiennent les rênes du foyer et qui ont de ce fait un pouvoir symbolique et un pouvoir réel et beaucoup plus puissant que leur mari. Mais tout est. En fait, elles vont l'acquérir, elles vont en jouir, elles vont le manifester, mais il ne faut pas le dire. Et ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup troublé. En fait, je ne m'attendais pas du tout à questionner ça. Et même, finalement, je me suis rendu compte que la question même de la polygamie était une espèce d'épée de Damoclès, en fait, que les hommes utilisent contre les femmes, contre leur pouvoir trop puissant, en fait. C'est la menace de la seconde femme, c'est une manière de dire, voilà, c'est toi qui travailles, c'est toi qui as l'argent, mais sache que je peux prendre une seconde femme. Enfin, donc il y a tout un jeu, finalement, de stratégie de pouvoir entre les hommes et les femmes, beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe que ce que je m'étais imaginé avant d'y aller, en fait. Et ça m'a beaucoup amusée et ça m'a beaucoup étonnée, en fait.
Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez fait des études d'histoire d'abord à la Sorbonne. Ensuite, vous avez fait donc ce Master 2 en sociologie visuelle. Et je crois que c'est une femme qui vous a donné envie de faire du cinéma, une cinéaste qui s'appelle Eliane Delatour, que j'ai découverte grâce à vous. C'est une anthropologue du CNRS qui très vite est passée derrière la caméra, d'abord en documentaire, puis en fiction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous lui devez à Eliane Delatour?
Bah, c'est vrai que moi, j'avais l'ambition de faire des études, enfin de faire une thèse, un DEA, un doctorat. Et j'étais partie plutôt pour suivre cette voie-là. Mais il y avait quelque chose qui ne me satisfaisait pas tout à fait dans la manière dont la recherche universitaire se passe, parce que j'avais l'impression que autant j'étais totalement galvanisée par les découvertes, par la curiosité, par les recherches que je pouvais mener, mais j'avais l'impression qu'elle n'y avait pas d'écho en fait, et que quelque part elle restait circonscrite à un cadre très restreint. Et du coup, dans le cadre d'un cours, une de nos profs nous a montré un film d'Hélène Delatour qui était le fruit de sa thèse de doctorat. Donc elle a travaillé sur la société des femmes aussi au Niger, et donc elle a fait ce film qui s'appelle Comte et Comte de la Cour, qui est un film où elle investit un harem de femmes, de la femme de chef d'un chef de tribu au Niger. Et en fait, pareil, c'est un film sur les stratégies de pouvoir de ces femmes qui sont à la fois maintenues dans une position extrêmement violente, comme c'est les femmes du chef, elles n'ont pas le droit de sortir. Et à l'intérieur de la concession, en fait, c'est elles qui détiennent tout le pouvoir économique et qui sont les vrais... sont les agents économiques de toute une région, quoi. Donc à la fois un film qui part d'une recherche anthropologique, et en même temps, ce qui était... qui m'a vraiment marqué, c'est la puissance de la forme, c'est la poésie de la forme, c'est comment elle utilisait le langage du cinéma pour questionner cette société. Enfin, vraiment, j'étais très très saisie par l'alliance entre le cinéma et les sciences sociales, et parce que ça pouvait produire, et comment ce film sortait complètement grâce à sa qualité formelle du cercle justement des sociologues, des anthropologues, du CNRS, quoi. Et donc ça a été une vraie découverte. Et du coup, par ce film, j'ai découvert tout un pan du cinéma documentaire que je connaissais pas, parce que pour moi, le cinéma documentaire, c'était le film didactique avec l'homme tronc qui parle, une voix off sur des images d'illustration. Le film un peu mode ORTF qui passait encore à la télévision à cette époque-là. Et c'était pas du tout comme ça un film de cinéma, mais qui captait le réel en utilisant les moyens du cinéma. Et donc voilà, donc elle m'a en fait ouvert un monde, elle m'a permis de me dire que c'est ce métier que j'avais envie de faire, et j'ai totalement dévié du coup de ce que j'avais prévu de faire, c'est-à-dire un DEA, un doctorat. J'ai pris une année sabbatique à l'issue de cette année-là, et j'ai passé une année à regarder des films à la BPI, à Beaubourg, et à vraiment à parfaire comme ça ma culture documentaire, et à me rendre compte que c'était la forme qui me correspondait le mieux en fait. Et je suis vraiment venue au cinéma par le documentaire.
Et ensuite, donc on en a parlé tout à l'heure, vous réalisez ce documentaire qui est donc votre projet de mémoire sur votre père. Ensuite, vous réalisez La Tour du Monde, hein, sur le quartier où vous avez grandi. J'accélère un peu, hein, vous avez aussi, la même année, en fait, en 2006, réalisé Clichy pour l'exemple. Alors là, il faut peut-être se mettre aussi un peu dans le contexte de l'époque. On est juste après les révoltes, hein, qu'on appelle parfois les émeutes de 2005 dans les banlieues, qui a suivi la mort de Ziad et Bouna.
On est même complètement dedans, parce que j'ai tout commencé à tourner quelques jours après, je crois.
Tout de suite après.
Ouais.
Et vous dites, vous avez dit en tout cas à l'époque que c'était, vous aviez envie de montrer les raisons de la colère. Et je me demandais la place que jouait la colère dans votre travail, et voire même dans votre vie.
Elle est assez malheureusement déterminante. Et je me dis que le jour où je serai plus en colère, peut-être que la forme des films, en tout cas, ça change. Enfin, en tout cas, c'est un exutoire. J'ai l'impression que le cinéma... Pourtant, c'est pas tellement, comme je disais, des films de tribus, des films de tribuns. Mais c'est vrai que le cinéma me permet de donner une forme à une colère qui serait étouffante et qui serait inopérante, en fait, si elle avait pas de forme. Qui pourrait même se retourner contre moi, qui pourrait... parce que je suis tellement lassée de constater ces inégalités, de constater cette violence, la violence symbolique, la violence sourde, cette domination et la fragilité qu'on a quand on est une minorité dans une majorité, en fait, et la place qu'on a, et comment c'est difficile de faire valoir nos droits, comment les gens ne l'entendent pas, ne veulent pas l'entendre. C'est des choses qui me rendent littéralement malade. C'est-à-dire que moi, j'ai arrêté, par exemple, j'ai arrêté la télé, j'ai plus du tout la télé chez moi. J'ai arrêté d'écouter même les infos en permanence, pendant le quinquennat de Sarkozy, parce que je me sentais attaquée, mais j'en devenais malade. C'est-à-dire que j'ai eu toute une période de ma vie où je n'arrivais même plus à parler, tellement, en fait, j'ai l'impression que cette violence quotidienne et incessante commençait à rentrer dans mon corps, à m'intoxiquer, à me rendre littéralement malade, à me faire perdre mes moyens, en fait. Et je me souviens d'une phrase d'Éric Besson, ça, c'est ça qui m'avait sidérée, au moment du mariage gris. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette punchline qui est aussi drôle qu'effrayante, où il disait qu'il voulait s'attaquer au mariage gris en disant que c'était une escroquerie sentimentale à but migratoire.
Et là, le mariage entre personnes immigrées et personnes françaises afin d'obtenir une nationalité sous-entendue.
C'était même pas clair. C'est limite, ça pouvait être le mariage entre blanc et noir. Enfin, c'était tout d'un coup le mariage mixte.
Le mariage gris.
Et que tout était... C'est-à-dire que même nos liens affectifs les plus intimes étaient... était même ni, enfin était corrompu par cette violence-là, était même sous la menace de cette paranoïa, mais en même temps cette violence, enfin voilà, cette colère, cette violence, ce sentiment d'injustice, il faut que ça sorte, mais il faut que ça sorte dans des gens qui vont brûler des voitures. C'est totalement inopérant et totalement vain et totalement, moi j'ai la chance et de ne pas avoir que ça comme moyen d'expression, donc il faut le construire, et plus que le construire, permettre aux gens de dialoguer avec moi par le cinéma et de pas d'opposer les pour et les contre, parce que pareil, moi je supporte pas la teneur des débats aussi où on va être assis sur une chaise entre moi je suis pour ça, moi je suis contre ça, et que à la fin du débat personne ne bouge. Finalement, j'ai l'impression que le cinéma il permet de faire bouger les lignes plus que ce genre de binarité. Et pour j'en ai pour exemple une expérience que j'ai eue quand j'ai présenté la permanence pour le mois du film documentaire à Évreux. C'était pas Évreux, c'était à Louviers précisément. Et donc c'était un maire de droite, mais vraiment de droite assez dure, il me semble, qui présentait avec tous les gens de la mairie, tous les gens qui présentaient le film. Et je sentais leur gêne à ouvrir le mois du film documentaire par ce film-là. Et pour avoir discuté avec une femme qui est dans l'entourage du maire juste avant la projection, je sentais que, en fait, elle s'attendait à voir un film qui lui aurait permis de déguiser ses arguments prêts à l'emploi, de on peut pas accueillir la misère du monde, de non mais quand même, à un moment on peut pas venir, enfin voilà, des arguments prêts à l'emploi, parce qu'elle s'attendait à voir un film militant sur la question de la migration qui aurait appelé à un film à des arguments contre. Et donc elle a vu le film et j'ai senti que le film les avait totalement désarmée, enfin, en tout cas, elle avait coupé la parole. C'est-à-dire que face au film, elle ne pouvait pas mettre en exergue ces arguments qu'elle avait préparés et qu'elle a.
Parce qu'il n'est pas binaire, justement, ce film. Il montre une réalité extrêmement nuancée, extrêmement complexe.
Mais je pense que c'est même pas ça, c'est que face au visage. Pour moi, ce qui m'intéressait, c'était que la violence et la douleur de l'exil, on puisse l'éprouver en contemplant le visage de ces hommes. C'est ça que j'avais envie de montrer. Qu'est-ce que c'est que la souffrance de l'exil ? Et que face à ça, on ne peut pas apposer des arguments de « on ne peut pas accueillir la misère du monde ». Enfin, je veux dire, notre humanité, en fait, même le reste de notre humanité face au visage. C'est-à-dire que je crois que c'est Lévinas qui disait « on ne peut pas tuer un homme quand on le regarde dans les yeux ». Il y a quelque chose de cet ordre-là, de dire « mais l'indécence de ces arguments face à la souffrance de ces hommes qui ne sont pas classés entre des demandeurs d'asile ou des migrants économiques. Non, c'est la même violence. C'est la même... Et que quelque part, ce film les déstabilisait, en tout cas à cet endroit-là. Et le film était complètement construit, écrit pour ça, pour pas qu'on puisse dissocier le demandeur d'asile du migrant économique et pour qu'on puisse s'identifier à eux et qu'on puisse éprouver ce que c'est que la douleur, en fait.
Vous le racontez très bien depuis tout à l'heure. Votre cinéma, il tourne autour de vous beaucoup, et vous passez aussi par les trajectoires individuelles pour donner faire comprendre des valeurs qui sont plus universelles. Moi, il y a une phrase qui me semble résume bien votre travail et qui parle aussi un peu de ce que j'essaye de faire ici avec La Poudre. C'est cette phrase, c'est le personnel est politique. C'est une phrase qui a servi de bannière au mouvement féministe depuis les années 70. C'est Carol Anish, une militante américaine, qui l'a employée pour la première fois. Est-ce que cette phrase vous parle aussi ?
Ah mais complètement. Complètement. Mais c'est pour moi, de toute façon, tous mes films, ils se passent que dans la sphère intime. Et c'est à travers la sphère intime qu'on peut questionner l'universel, en fait. Et que, effectivement, je pense qu'un film comme La mort de Nanton est politique. Pas au sens partisan, pas au sens militant, mais il est politique dans le sens où tout d'un coup regarder l'autre et éprouver la vie de l'autre, éprouver des singularités dont on n'a pas accès, dont on ignore tout, ça permet de raconter de façon sensible finalement tout un monde, quoi. Et je crois que face à cet appauvrissement du débat, face à cet appauvrissement du discours, face à cette lutte en permanence contre l'intelligence et la sensibilité qu'on vit au quotidien et dont on doit vraiment se protéger, se débattre, j'ai l'impression que le cinéma, que raconter l'expérience intime de vie de gens permet de, voilà, d'aller au-delà, quoi, d'offrir un, voilà, une possibilité d'identification aussi. Mmh. Et tout d'un coup, j'étais très étonnée quand je faisais La mort de Danton. Il y a une femme qui est venue me voir, c'est une femme blanche qui avait plus de 60 ans, qui vit en Picardie, qui m'a dit, vous savez, Steve, c'est moi. Et en fait, elle s'est totalement reconnue dans cette vie, dans la vie de Steve, dans son complexe d'illégitimité, dans son complexe de classe, dans sa timidité. Elle s'était totalement reconnue, quoi. Et je trouve ça beau, en fait, que cette femme ait pu voir du commun avec l'expérience de Steve. C'est qu'il y a quelque chose c'est puissant aussi, la possibilité de s'identifier à l'autre, de se mettre à la place de l'autre, de le regarder et de se dire que peut-être il a des choses à nous apprendre alors qu'on ne pouvait pas le soupçonner avant, quoi. Mmh.
C'est drôle que vous fassiez ce parallèle maintenant, parce que je voulais vous parler de Claire Denis, qui est une autre cinéaste qui vous a inspiré, notamment son film 35 Roms. Et c'est drôle parce que je me suis penchée sur son histoire que je ne connaissais pas. En réalité, elle est née en France, mais elle a grandi en Afrique, notamment au Cameroun et au Burkina Faso. Et elle est arrivée en France à 12 ans en étant blanche, mais en se sentant déracinée. En fait, c'était l'Afrique qui s'éracine. Et vous vous identifiez en quelque sorte à elle, dans un espèce de miroir inversé. Enfin, peut-être que je fais un résumé bizarre. Je ne sais pas si,
en tout cas, c'est une cinéaste qui m'inspire énormément, mais vraiment, tous ces films, je les consulte comme on consulte des œuvres qui vous montrent le chemin à prendre. Et je sais que 35 Roms, par exemple, un de ces films qui me touche le plus, que j'ai le plus aimé. En fait, j'ai vu ce film, un père, une fille, la difficulté de se séparer, comment choisir entre l'amour fusionnel qu'on a pour son père et la promesse d'une histoire d'amour naissante. Enfin, tout le monde est noir dans le film, et jusqu'à la caricature. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, même dans les scènes, même les figurants dans le train que Mati Diop prend pour rentrer chez elle, tout le monde est noir. À la fac, tout le monde est noir. Enfin, il n'y a pas un blanc dans le film. Et tout d'un coup, je me suis dit que ça, c'était forcément volontaire, quoi. Et moi, ce que j'ai vu, c'est là où je trouve que le film est totalement révolutionnaire et complètement politique, c'est qu'elle dit, vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas dans ce film un raisonnement identitaire, un raisonnement sur la race, un raisonnement sur la migration. Non, c'est l'histoire d'un père qui a du mal à se séparer de sa fille. Mmh. Et c'est l'histoire la plus universelle qui puisse exister. Et pourtant, ça va être un corps noir, ça va être des corps noirs qui vont porter cet universel. Et faire accéder au noir à l'universel, c'est quelque chose d'extrêmement politique, quoi. C'est hyper puissant. Et c'est vrai que c'est, je crois que c'est la chose qu'elle m'a... qui nourrit aussi mon cinéma, dont j'ai envie de faire quelque chose de très important, quoi. Que quand on regarde mon film, peu importe d'où on vient, peu importe la couleur qu'on a, on puisse reconnaître des choses qui nous renseignent sur nous-mêmes. Je pense que c'est le meilleur moyen de créer, en fait, des liens entre les gens, quoi, et de voir que l'autre, c'est quelque chose aussi un peu de soi-même, quoi.
On arrive seulement maintenant vers La tendresse, qui est pourtant vraiment un film qui, enfin, moi, il m'a vraiment bouleversée. J'ai regardé deux fois d'affilée tellement j'avais été impactée en le découvrant. Donc, c'est un film où quatre hommes se confient sur leur rapport à l'amour et à la sexualité. Franchement, j'aurais pu faire l'émission entière sur lui. Il y a tellement de choses à dire. Donc, ces hommes filmés à l'écran n'ouvrent pas la bouche, en fait, quasiment pas, à l'exception d'un. On entend leur voix en off. Ils sont interrogés par vous. C'est votre voix qui déclenchent leurs paroles. Il y a aussi cet homme qui dit « La seule tendresse que j'ai reçue, c'est celle de ma mère. » Moi, j'ai failli pleurer en entendant cette phrase. Voilà, en fait, votre film, c'est une lecture puissante de la masculinité. Et je me demandais comment vous définissiez la notion de masculinité, vous.
Alors, j'ai beaucoup de mal à la définir. Est-ce qu'on peut la définir ? Je ne suis même pas certaine, quoi. En tout cas, je ne me risquerais pas...
Justement, vous la brisez, vous brisez cette idée qu'il y aurait une masculinité en montrant des hommes qui ont des rapports complètement différents aux femmes.
Mais je pense que même pour eux, parce que le film interroge ça aussi, interroge comment ces hommes sont enfermés dans leur propre stéréotype de ce que c'est que la masculinité, de ce que c'est que la virilité, comment ils sont enfermés là-dedans et comment cet enfermement ne leur permet pas de se dire et ne leur permet pas de se confronter avec des choses fondamentales. Moi, je me souviens d'une projection de La mort de Danton avec les copains de Steve qui m'a vraiment, vraiment bouleversée parce que il y a un moment dans le film où Steve avoue avec énormément de... Enfin, moi, c'est une scène qui me bouleverse. Il est complètement au bout du rouleau, presque en dépression, et il dit à quel point ça va pas, à quel point il est déprimé, à quel point il se sent vulnérable, à quel point il a peur de pas arriver à finir l'année du cours Simon. Et donc voilà, c'est une scène que je trouve qui me touche beaucoup dans le film. Et ses amis ont vu le film, et eux, ce qui les a marqués, c'était pas tellement l'expérience violente que Steve avait vécue pendant ses 3 ans au cours Simon. C'était cette scène précisément. Et son ami lui a dit, mais oh là là, t'as eu le courage de dire ta vulnérabilité, en gros, enfin, c'est ça qu'il lui disait.
T'as pleuré face à la caméra, quoi.
Oui, t'as eu le courage de montrer tes faiblesses, en fait. Et on sentait que c'est quelque chose qu'ils auraient aimé pouvoir faire, mais que c'était, voilà, beaucoup, très difficile. Et du coup, ce film-là, je me disais, mais c'est marrant de s'empêcher de dire sa vulnérabilité, quoi, alors que... Pour moi, dire la vulnérabilité, c'est une force énorme, en fait. C'est peut-être là où réside la puissance, c'est d'être capable de dire sa fragilité, enfin, sa faiblesse. Hein. Et donc, j'avais envie de, quelque part, en tout cas avec ces 4 hommes, parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas une vision exhaustive de la masculinité dans les banlieues. C'est que je pense que, moi, c'est ces 4 hommes, et c'est parce que ces 4 hommes ont bouleversé que c'est ces 4 hommes qui sont les personnages et les voix du film. Et pas parce que j'avais en tête de...
C'est pas des sociotypes.
Voilà, pas du tout. Ils n'ont pas du tout été cherchés en plus là-dessus. Et loin de moi l'idée de tout dire sur cette question-là. C'était vraiment une proposition. Et je pense qu'il en faudrait des centaines d'autres pour qu'on arrive à cerner un peu voilà, qu'est-ce que c'est que d'être un garçon de banlieue aujourd'hui. Il y a tellement de choses à dire. Mais en tout cas, voilà, il y avait vraiment cette idée de libérer ces 4 garçons et de leur permettre de dire quelque chose de leur fragilité et d'en faire quelque chose, du coup.
J'ai lu récemment un livre qui s'appelle « Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes ». C'est Olivia Gazalet qui l'a écrit. Et en fait, on se rend compte en lisant ce livre, et puis il y a évidemment d'autres ouvrages qui sont autour du thème, que finalement, déconstruire la masculinité, c'est une démarche féministe aussi. Est-ce que vous considérez que la démarche de vers la tendresse, elle est féministe en quelque sorte ?
Sans doute. En tout cas, moi, j'avais très peur parce que le féminisme est tellement large aujourd'hui et tellement... Moi, il y a un féminisme avec lequel je me sens totalement en adéquation. Il y a un féminisme qui m'hallucine, quoi. Qui est pour le coup anti-féministe pour moi. J'avais très peur de ça. J'avais très peur que les femmes ne puissent pas entendre ces voix et que ce soit très difficile. J'avais peur de les exposer à la mauvaise interprétation, parce que moi, ce que j'entendais de ces voix, j'avais très peur, parce qu'ils disent des choses des fois très crues et très violentes. Hein. Mais en même temps, le fait qu'ils le disent à une femme, j'espérais que les gens allaient comprendre aussi la part de jeu, la part de mise en scène.
D'ailleurs, on entend un peu votre voix.
Oui, et c'était très important qu'on entende ma voix.
Surtout un moment où il y a le premier personnage qui est vraiment, on sent un horrible macho, enfin, c'est pour caricaturer un peu. À un moment donné, il y a un commentaire qui est peut-être le seul commentaire dans tous vos films où on entend, où vous dites, enfin, quand même, là, franchement, t'as une image de la femme.
Oui, mais c'était important que ce soit. Parce que, en fait, de savoir qu'il s'adressait à des femmes, quoi.
Ouais.
Et que c'était peut-être la première fois, et c'était sans doute la première fois, qu'il s'adressait aussi intimement à une femme.
Ouais.
Et pour moi, c'était hyper important que ma voix soit présente dans le film, mais voilà, quand le film a été fini, j'ai eu très peur de ça. Et en fait, le film, il a beaucoup déstabilisé. J'ai mis beaucoup de temps avant que des gens puissent le voir vraiment pour ce qu'il était et que les festivals s'intéressent au film. Ça a mis beaucoup de temps, en fait. Et celles qui m'ont accueilli étaient les féministes du festival du film de femmes. Et ça m'a
c'était magnifique.
Festival de Créteil, dirigé par Jackie Buet. Et en fait, elles ont porté le film. Et c'est parce que le film a été diffusé là que tout d'un coup, il y a eu que le film a été vu par des sélectionneurs, etc. Et en fait, vraiment, le film est né dans cet espace-là. Et donc, je pense que, oui, sans doute, il y a quelque chose de féministe dans le film. Je pense qu'il y a des hommes aussi qui sont très, très, très dérangés par le film. Et autant les femmes sont très intéressées et vraiment très, très... émue par le film, enfin, la plupart des témoignages de femmes que j'ai eues étaient allés dans ce sens-là. Les hommes, ils sont plus... C'est plus compliqué. Et je crois qu'une femme qui se penche sur les hommes, c'est pas si évident pour certains, en fait. Je sens qu'il y a quelque chose de le fait d'être démasqué comme ça, enfin de se sentir démasqué. J'ai des réactions très violentes aussi d'hommes qui ne comprennent pas le film, qui disent oui, mais tu nous stigmatises, enfin qui font un contresens total du film. Presque qu'ils ne l'entendent pas, ils n'écoutent pas en fait. C'est-à-dire que oui, tu fais comme si on était tous des horribles machos. Je fais non, je pense pas, non.
Enfin, pas du tout.
Vraiment, les quatre voix sont tellement différentes en plus que je pense pas que je crée un phénotype de l'homme noir et arabe. Enfin, je pense vraiment pas, parce que pour le coup, ils sont très très différents. Mais il y a quand même cette panique totale d'avoir été démasqué, qui quand même, dans les réactions les plus virulentes que j'ai eues, m'interroge sur ce que ça veut dire d'être une femme qui regarde des hommes, en fait, et qui dévoile quelque chose de leur vulnérabilité.
Donc il tend la main pour ramasser un homme qui est tombé par terre, qui est tombé de son cheval.
Ouais, c'est pas si évident. C'est pour ça que c'est très osé qu'elle ait réussi à faire ça au 19e siècle. C'est très avant-gardiste, en fait.
Vous avez reçu le César du meilleur court-métrage pour ce film, Ex aequo, avec Maïmouna Doucouré pour Maman. Il y a une toute petite phrase au début de votre discours, qui est un discours très émouvant, que vous avez notamment dédié aux victimes des violences policières, Adama Traoré notamment. Vous dites, ah, c'est marrant, vous avez recommencé les deux blagues de la sélection. Ça vous a vraiment agacé de recevoir, comme si on pouvait vous confondre, comme si...
Non, au contraire, moi je trouve que justement, moi le côté, le porte-parole de la cause noire, moi je ne construis pas ma carrière sur le fait d'être une cinéaste noire. Ça ne m'intéresse pas, je construis ma carrière sur le fait d'être une cinéaste qui utilise des formes pour dire des choses qui peuvent parler de discrimination, de racisme, etc. Mais être réduite au symbole, hein. Même si je trouve que quand même c'est important, parce que moi j'ai vu des gamines de 15 ans hyper fières dans la rue me dire mais merci, mais... Donc, au début de l'interview, je parlais de cette impossibilité que j'avais de me projeter quand j'étais enfant. Le fait de proposer un modèle d'identification, je pense que c'est important, mais pour autant je suis très ça ira parce qu'on est de plus en plus nombreuses et c'est très bien, mais j'ai pas envie de réduire ma carrière et mon parcours professionnel à cette forme du symbole, parce que finalement ce serait nier finalement la question cinématographique du film finalement, et le fait de partager ce film avec une femme noire, avec une femme dont le cinéma n'est pas du tout le mien. Moi je fais du documentaire, mais Mouna elle fait plutôt de la fiction, deux films complètement différents. Ça prouve que deux femmes noires c'est pas la même chose et qu'on a des singularités différentes, et que je pense que le fait que les gens se rendent compte de nos singularités. Moi, je suis très amie avec Diana Gay, par exemple. Diana Gay, c'est une femme noire, on n'a pas du tout le même cinéma. Et je trouve que, avec Jossa Adjambé, qui est nommée au César du meilleur court-métrage, j'espère vraiment qu'elle pourra être poursuivre, finalement, qu'on pourra lui passer le relais. Enfin, j'en serais vraiment ravie. Voilà, son film n'a rien à voir avec Vers la tendresse ou Maman. Donc, je me dis qu'au fond, c'est une très bonne chose. C'est que si les gens voient les deux films, ils peuvent vraiment se dire que la diversité dans la diversité, c'est bien aussi.
La diversité dans la diversité, c'est joliment dit. Alors, j'ai une question rituelle un peu bizarre que je pose dans la poudre à chaque fois. Comment vous entendez-vous avec votre utérus, Alice Diop ?
Ah, c'est marrant parce que je crois que c'est l'objet de 10 ans d'analyse, de répondre à cette question. Donc, je ne sais pas si je pourrais vraiment y répondre. Je crois qu'on s'apprivoise, je vais dire. On s'apprivoise de plus en plus. Et c'est vrai que c'est un... Ouais. C'est très... Enfin, en même temps, il m'a donné un enfant magnifique. Enfin, vraiment, il a porté mon fils. Donc, mais c'est vrai que c'est un continent à explorer. C'est vraiment un continent à explorer que je continue à faire. Qui est l'objet de beaucoup de séances encore, je crois.
Bravo, c'est bien d'avoir entrepris le travail déjà.
Ouais. Non, c'était nécessaire, je crois.
Et justement, pour faire ce travail d'exploration, d'apprivoisement de soi, et puis aussi pour écrire, pour créer, on sait qu'il faut avoir accès à sa chambre, à soi. Quand on est une femme, c'est pas toujours facile, surtout quand on est une mère. Est-ce que vous y avez accès facilement ?
Alors, c'est très marrant la question que vous posez, parce que je suis en plein dans un débat personnel entre faut-il ou pas, parce que j'ai un fils qui a 9 ans et j'aimerais beaucoup avoir un deuxième enfant, mais quand on en parle avec mon compagnon, je me dis, mais c'est le berceau ou la chambre, en fait, ou le bureau. C'est le berceau ou le bureau. Et je me dis, mais comme on a, là, pour l'instant, c'est la première fois que j'ai une chambre à moi. Enfin, c'est-à-dire que j'ai un bureau dans la maison qu'on a acheté. Donc, et je vois à quel point c'est hyper important. Et même, j'ai l'impression que ma créativité est d'autant plus forte que d'avoir cet espace comme ça dédié à la création. Je peux mettre de côté les lessives, les devoirs, la vaisselle qui n'est pas faite, le lit, etc. Et que je peux me concentrer vraiment sur mon travail. c'est pas facile d'être mère, d'être cinéaste, d'être... C'est rigolo parce que je... Ouda Benyamida, j'ai une longue discussion avec elle là-dessus.
La réalisatrice de Divine, qui a été récompensée aussi au César.
Qui m'a dit, mais oui, parce que ça fait pas mal de temps que je me pose cette question, je m'aperçois, ça fait peut-être deux ans ou trois ans, et je l'ai eu au téléphone l'année dernière, et elle m'a vraiment dit, mais non, il faut absolument, moi j'ai deux enfants, mais c'est extraordinaire, mais t'en es d'autant plus puissante. Donc c'est, voilà, c'est rigolo, j'ai trouvé ça très bienveillant et très généreux de sa part de me dire, mais t'inquiète pas, ça va aller, tu continueras à faire des films, même si t'as un bébé en bas âge. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on se pose de plus en plus et qui n'est pas évidente, en fait, de gérer tout ça. Et on n'est pas aidé. Hein. Moi, quand j'ai eu mon fils, je faisais déjà des films, mais je n'ai pas eu de congé maternité parce que je n'avais pas suffisamment fait d'heures. Et je me dis, c'est quand même terrible de... Et j'ai comme cette espèce de panique de me dire, mais voilà, c'est pas évident, quoi. On n'est pas soutenu, en fait. J'ai pas l'impression qu'on soit très soutenu. Quand on est femme artiste et qu'on essaie de tout vouloir, en fait. Parce que la question, c'est ça, on veut tout avoir. Enfin, moi, j'aimerais tout avoir.
Ça évoque quoi pour vous, la poudre ?
La poudre. Bah, une émission très sympathique, déjà. Je sais pas, quelque chose de magique qui rend un peu la vie qu'on saupoudre et qui rend la vie plus merveilleuse, je sais pas, quelque chose de féerique.
La poudre magique, j'aime beaucoup.
Ouais. quelque chose de cet ordre. Ouais.
Merci beaucoup, Alice Diop.
Bah, merci à vous, merci beaucoup.
Merci. Merci à Alice Diop d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son, Zisla Tortello. À la programmation, Laura Cuissard. Au mixage, Laurie Galigani. Le générique est un extrait de la chanson L'Appétit de Bonnie Banane, produite par Gauthier Visiose. Si vous aimez l'émission, le mieux est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. La Poudre a sa propre page Facebook. Nous sommes aussi sur Twitter, La Poudre NE, et sur Instagram, La Poudre TV, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. Pour ne louper aucun épisode de La Poudre, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter sur le site de Nouvelles Écoutes. Cliquez sur La Poudre, l'occasion de découvrir tous les autres podcasts que nous produisons. À très vite et continuez de faire parler La Poudre. Cet épisode a été enregistré dans une chambre de l'hôtel Grand Amour, que je remercie pour leur soutien inconditionnel depuis la première saison de La Poudre. Le décor est génial, entièrement chiné. Ma chambre préférée, c'est la 604, celle qui est sous les toits, avec un portrait de Vivienne Westwood flamboyante et nue, sous l'objectif de Jürgen Teller. Si vous réservez une chambre à l'hôtel Grand Amour, rue de la Fidélité à Paris, avec le code La Poudre, vous bénéficierez d'une réduction de 10% sur le prix de votre chambre. Ne nous remerciez pas.